quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis ta question 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, contre le volémi et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez tout. Canu Info du vendredi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est vendredi, alors il est déjà 19h20, mais c'est du coup quand même l'heure du Canu Info. Vous êtes bien sûr 102.2 FM ou peut-être sur Internet. Et de quoi est-ce qu'on va parler au Canu Info ce soir?
Eh bien, on va commencer par la rubrique violence policière et on va vous parler de l'expertise judiciaire qui démontre que ce sont bien les flics qui ont tué Cédric Chouviat.
Ensuite, à l'international, on va un peu parler de comment ça se passe un an après la loi anti-IVG en Pologne.
Au niveau national, la maltraitance en EHPAD, comment Corian et Orpea violentent nos anciens.
Ensuite, on vous parlera un peu du Covid et du militantisme.
Et puis, on reviendra sur la demande de dissolution de Nantes révoltée.
On finira par un agenda et le fameux ACAB. D'ailleurs, si vous avez des idées de AK, vous pouvez nous les transmettre avec le numéro de téléphone 04 78 39 18 15. N'hésitez pas à nous envoyer les AK, on adore ça.
Voilà, bonne écoute sur Radio Canu. Alors on a fait semblant que c'était le jingle violence policière, mais c'était une blague. Mais on va quand même vous parler de ça maintenant. Du coup, si vous vous rappelez bien, ça fait 2 ans que Cédric Chouviat est mort des mains de la police. Ça avait quand même fait grand bruit parce qu'on parle d'un type, ça a été tout filmé. Il s'est fait tuer par les flics lors de son arrestation alors qu'il n'avait rien fait d'autre qu'avoir envie de les filmer. On se rappellera un petit peu les lois qu'a tenté de passer et qu'a passé le gouvernement sur les années qui ont suivi. Et en tout cas, ça fait 2 ans et enfin, il y a la médecine judiciaire donc, qui a rendu son rapport sur l'arrestation et du coup la mort de Cédric Chouviat et qui prouve et qui valide le fait qu'effectivement c'est bien l'arrestation des flics qui l'a tué. Donc à la fois on rappelle en l'étranglant, en le couchant ventre à terre, en lui tirant les bras en arrière, le tout avec un casque de scooter et donc une sangle qui a étranglé Cédric Chouvia. On se rappelle aussi que, quand même, c'est quelqu'un qui a répété plusieurs fois « j'étouffe, j'étouffe » aux flics pendant qu'ils étaient en train de l'assassiner. Mais, a priori, les flics n'ont pas souhaité l'entendre. Ce qui est un petit peu embêtant, je trouve, dans cette histoire, alors on est très content, évidemment, que la médecine ait statué sur le fait que c'est bien la police qui a tué Cédric Chouvia. Pour autant, on peut quand même se rappeler que ça fait 2 ans, cette histoire, que ça arrivait. C'est vraiment long, 2 ans. On peut se dire qu'il y a quand même des personnes qui passent en comparution immédiate. Alors, dès qu'il y a le moindre petit accroc réel ou inventé en manif, il y a évidemment toutes les personnes qui peuvent se faire choper parce que la police a décidé qu'ils dilaient, qui vont eux aussi passer en comparution immédiate, qui du coup vont pas avoir droit un jugement juste, parce que dans un jugement on peut se préparer, il faut préparer sa défense, quelque chose qui prend un peu de temps, et qu'on sait bien que les comparutions immédiates, elles ont été faites justement pour sanctionner plus fort les plus précaires. Dans ce rapport aussi, alors évidemment les avocats de Cédric Chouvia, la famille s'est exprimée en disant que c'était quand même une sacrément bonne nouvelle, et on est d'accord avec eux, ça fait quand même quelque chose qui avance, parce qu'il y a aussi d'autres... Malheureusement, d'autres exactions de la police qui prennent vachement de temps à être sanctionnées, c'est des expertises, des contre-expertises, etc. Alors malheureusement, là, les flics ont encore le droit de demander une contre-expertise, donc certainement qu'ils vont jouer la montre. Et en fait, pendant tout le temps où ils jouent la montre, il y a aussi quand même ce petit truc, c'est que les flics ont été mis en cause. On se rappelle qu'il a été prouvé qu'ils ont menti sur le procès-verbal qu'ils ont produit sur l'arrestation. Et on devrait encore leur faire confiance, et pourtant, ils ont encore le droit à une contre-expertise, et donc ils vont faire traîner aussi longtemps que possible tout ça. Et pendant ce temps-là, en fait, ils ne sont pas suspendus. C'est-à-dire que c'est des keufs qui sont encore en service, qui ont le droit de se trimballer avec l'uniforme et soi-disant de représenter l'État de toutes et tous. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Voilà. En tout cas, c'est quand même aussi, on va dire, une affaire qui avance un petit peu, ce qui est quand même ça, pour le coup, une assez bonne nouvelle, que la justice puisse accepter cette expertise médicale qui dit qu'effectivement, en fait, quand on arrête des gens pour rien, qu'on les étrangle, qu'on les couche au sol, qu'on les violente et qu'on les tue à la fin, la police tue. C'est toujours pas une grande nouvelle, mais ça fait toujours un peu de bien de le rappeler, parce que malheureusement, à chaque fois que tout ça est mentionné, on a droit à des discours interminables de tous nos dirigeants et nos dirigeantes pour nous expliquer à quel point ce n'est pas vrai. Voilà, affaire à suivre, malheureusement, ça va durer encore certainement des plombes, cette histoire, mais en tout cas, c'est quand même une première victoire. To the evil, everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah. When the people take a stand, come on, no hatred. Fuck races, blank faces. Time changing, one nation. Unification, the vibration. Unfuck the world, no hatred.
Maintenant, dans la rubrique internationale, donc le 27 janvier 2021, le tribunal constitutionnel polonais, qui est donc la plus haute juridiction du pays et sous le contrôle direct du gouvernement, a rendu un jugement estimant que l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus était contraire à la Constitution. En clair, ça signifie que depuis un an, seuls 2 motifs restent légaux pour l'avortement en Pologne. La mise en danger de la santé, de la vie de la femme enceinte, et une grossesse conséquence d'un viol et d'un inceste si besoin était de le préciser. Le PIS, parti au pouvoir, droit et justice en français, considère donc que les femmes polonaises ne doivent pas jouir du droit à disposer librement de leur corps. Conséquence directe du jugement rendu l'an dernier et de la politique réactionnaire et oppressive du gouvernement polonais, les médecins craignent d'aller en prison s'ils ne parviennent pas à prouver suffisamment que la vie de la mère était en danger. Et cette peur les entraîne dans des pratiques dangereuses, où ils attendent le dernier moment pour pratiquer une IVG. Mais parfois, à trop attendre, c'est la vie des patientes qui est mise en danger. C'est probablement ce qui est arrivé à Agnieszka, une femme de 37 ans qui est décédée ce mardi à l'hôpital suite d'une septicémie. À son arrivée, elle était enceinte de jumeaux, dont un des fœtus était sans vie depuis 7 jours. mais la peur des médecins les a probablement empêchés de lui permettre d'avorter, laissant son état se dégrader de plus en plus jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Malheureusement, cet événement tragique n'est pas isolé, mais une histoire qui se répète inlassablement en Pologne depuis un an. Des femmes meurent à cause des croyances religieuses d'un gouvernement qui ne cache pas ses liens avec l'Église catholique. Gouvernement qui, notons-le, est composé de 20 ministres dont seulement 2 sont des femmes. Heureusement, tout le corps médical n'est pas paralysé par la peur. Ainsi, FEDERA, la Fédération des femmes et du planning familial, a mis en place un réseau de psychiatres qui aident les femmes dont la grossesse les met en danger. En produisant un certificat médical justifiant que la grossesse met en danger la santé mentale des patientes, ces psychiatres endossent la responsabilité légale en cas d'avortement, ce qui facilite ainsi les négociations avec les praticiens et praticiennes hospitalières. Face à cette tendance fascisante des dirigeants polonais, des collectifs s'organisent aussi pour permettre aux femmes de disposer librement de leur corps. En s'appuyant sur la non-criminalisation des femmes enceintes, le collectif Avortement sans frontières ou l'organisation Women on Web envoie à celles qui le demandent des pilules permettant une IVG médicamenteuse. En 2021, Avortement sans frontières indique avoir reçu 6 fois plus de sollicitations que l'année précédente où la peur ne pesait pas encore sur le corps médical. Mais l'exploitation de ces flous dans la loi ne change pas le fond de celle-ci. Sans malformation du fœtus, il est toujours illégal pour les femmes polonaises d'avorter. Par ailleurs, l'IVG médicamenteuse n'est efficace que jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Et alors c'est donc 1544 Polonaises qui ont été contraintes d'avorter à l'étranger avec l'appui du collectif Avortement sans frontières, soit 4,5 fois plus que l'an passé. Ce sont autant de femmes que les services publics polonais ont laissé tomber.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Au niveau national, du coup. Deux articles qui traitent justement de ce qui peut se passer en EHPAD de manière très différente. Un premier article par rapport à Korian, un des monstres qui détient la quasi-totalité des maisons de retraite à travers même le monde, au même titre Corpéa, mais ça on en parlera juste après. Korian, du coup, qui était plutôt scandalisé, déstabilisé par un reportage qui était passé sur France 3, un documentaire du coup qui traitait des morts du Covid dans les EHPAD. Donc ce documentaire a pas mal déplu à Korian, qui a demandé une enquête et une analyse un petit peu du préjudice que pouvait créer ce documentaire sur l'entreprise Korian. Ça peut faire un peu lien avec l'enquête dont on parlait la semaine dernière sur la concentration des médias, quand Bolloré et d'autres ont pu être entendus par les sénateurs de manière plutôt détendue et jovial, sans être incriminé de quoi que ce soit. Là, on se retrouve du coup avec un comité éthique de France Télévisions qui a bien entendu le désagrément qu'avait pu ressentir Korian suite à la diffusion de ce documentaire. Il peut parler vraiment de propos diffamatoires questionnant la mortalité dans les EHPAD ou l'opacité du groupe envers les familles. En étant aussi documenté de témoignages de familles ayant porté plainte contre Korian au niveau de maltraitance ou de questionnement sur l'accompagnement de leurs parents âgés. on peut du coup constater que malgré quand même tout un tas de faits, alors autant des chiffres avec la surmentalité en EHPAD qui a pu se passer pendant la première vague essentiellement, les différents témoignages des familles ou de personnes hébergées habitantes dans ce genre d'EHPAD, des professionnels qui y travaillent au quotidien, etc. Bon, il y a tout ça comme plutôt quand même à charge sur le fonctionnement de ce genre de structure. Mais finalement, Corian est sorti plutôt pas trop entaché par ce documentaire, puisqu'il a le comité éthique a donné raison à la râlerie de Corian contre ce documentaire, en prétextant même une sorte d'acharnement des journalistes, étant donné qu'ils avaient déjà sorti 3 ou 4 bouquins déjà sur le même thème des EHPAD. Peut-être qu'ils étaient un petit peu intéressés par dénoncer quand même ces malversations de ces grosses entreprises à but lucratif, clairement, pour soigner et s'occuper des personnes qui nous sont chères ou proches, en tout cas, de nos aînés en fin de vie. Voilà, mais ils sont sortis plutôt tranquillisés. Et alors, bon, la question, c'est un peu de savoir, là, Corian est adoubé plus ou moins par le comité éthique de France Télévisions. Et en même temps, dans la même semaine, explose quand même via la diffusion d'un livre de Victor Castenet sur une énorme étude qu'il a menée pendant de nombreuses années avec tout un tas d'interviews, de témoignages, etc. et puis d'observations sur le terrain, d'enquêtes même journalistiques sur le fonctionnement de Orpea, qui est une autre des énormes entreprises qui ont tout un tas de maisons de retraite et autres EHPAD à travers le monde. Mais en France, je crois que ça concerne même jusqu'à 700 000 personnes qui sont dans ces structures-là gérées par Orpea. Donc voilà, il y a Corian qui est adoubé par le comité éthique de France Télévisions et en même temps la même semaine Orpea qui lui est quand même un peu mis au pilori avec une dénonciation de pratiques frauduleuses au niveau de la gérance des budgets entre autres publics de ces EHPAD et également de témoignages et de plaintes recueillies auprès des personnes habitantes en EHPAD, des familles des personnes en EHPAD et de un certain nombre de professionnels justement dénonçant des conditions de travail impossible, jusqu'à du coup, là, ce monsieur Castanet, dans son enquête, qui en vient quand même sur une question de lieu de soins, à avoir débusqué une sorte de systématisme dans le rationnement du matériel médical et de la nourriture au niveau de cette grande entreprise. Moi, ça me rappelle quand je passais mes mises en situation professionnelle en école d'infirmière, comme on préparait pendant un mois notre examen en mettant des protections de côté, des gants qu'on est assez en grand nombre pour le jour où on fera une toilette au lit en mode pièce de théâtre finalement devant nos examinateurs. Voilà, chaque professionnel peut, je pense, attester au quotidien du manque de moyens, d'outils et de matériel. Et donc via ça, ce monsieur Castanet là a un peu poussé, parce que du coup il comprenait pas bien où passait quand même le fric qui était amené avec justification de facture auprès des finances publiques qui quand même donne des énormes subventions pour la part médicale des budgets des maisons de retraite, en découvrant que finalement ils avaient trouvé un système qui leur permettait d'amener, ça s'appelle des marges arrière sur les produits de santé, du coup, en négociant en amont avec les fournisseurs de protection pour les personnes incontinentes et autres matériels médicaux utilisés dans les maisons de retraite. Donc, il y avait une négociation faite avec les fournisseurs de ces mêmes matériaux médicaux. Donc, ils pouvaient envoyer la facture au niveau du conseil départemental ou autre pour justifier de on a bien utilisé votre argent pour prendre soin des personnes qu'on accueille dans nos lieux. Et puis en fin d'année, eh ben, ils recevaient un remboursement de ces mêmes entreprises pour le trop perçu en fait par rapport à la quantité de matériel qu'ils avaient en réalité reçu et qui se voyait au quotidien dans chaque lieu de soins comme manque pour la pratique et puis pour la prise en soins digne, on va dire, de nos aînés. Voilà.
Et on va rester plus ou moins dans le monde de la santé avec un petit propos sur le Covid et le militantisme.
Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni. Adaptation radiophonique d'un texte du collectif Cabriole paru le jeudi 27 janvier. Des centaines de personnes meurent chaque jour du Covid-19 depuis le début de l'année. Des centaines de personnes sont admises chaque jour en soins critiques. Des centaines de milliers de personnes se font infecter, dont une part importante sera touchée par des formes persistantes de la maladie. Ces chiffres, ce sont des vies. Le gouvernement brandit les chiffres et allège le protocole. Nous sommes désormais au cœur de la vague, encore une fois. De part en part, l'épidémie est politique. Partout, le Covid-19 a infecté et tué majoritairement des personnes pauvres, des personnes racisées et des femmes. Ce sont les femmes, et pour beaucoup des femmes racisées, qui constituaient le gros des troupes envoyées se faire infecter en première ligne lors des vagues successives de contamination et de morts. Les classes populaires sont celles qui connaissent les plus forts taux de maladies chroniques, celles dont les métiers essentiels et manuels ne peuvent pas être exercés à distance, mais également celles dont l'accès aux soins est le plus entravé. Les territoires les plus paupérisés sont ceux qui ont été le plus touchés par le Covid-19, mais ce sont également les derniers à bénéficier du vaccin. Vaccins qui sont toujours réservés à l'usage exclusif des pays riches. La pandémie est donc entièrement structurée selon des rapports de domination qui gouvernent ce monde. Son déni est un luxe bourgeois, patriarcal, raciste et validiste. Chaque vague est un choix politique. Le gouvernement français a systématiquement fait le choix de laisser la population se faire infecter massivement, appliquant en cela la feuille de route des réseaux de l'extrême droite libertarienne qui prône la politique eugéniste du vivre avec. Vivre avec, c'est accepter que toute la population, mais plus particulièrement les classes populaires, et parmi elles ces franges les plus fragilisées que sont les femmes et les personnes racisées, mais aussi les personnes immunodéprimées, atteintes de maladies chroniques ou handicapées, vivent dans la peur, se fassent infecter, contractent des Covid longs ou en meurent. Du côté des luttes, passé les mois de la première vague et les envolées lyriques sur le monde d'après, la réaction à la crise sanitaire a été étonnamment faible. Le déni du Covid en milieu militant s'est structuré autour d'un certain nombre de sophismes, ces sortes de raisonnements qui n'ont de logique que l'apparence. Le premier de ces sophismes dit ceci. Les mesures de prévention, comme le confinement, ont été nécessaires à cause de la déstructuration du système sanitaire par les politiques néolibérales. Ce raisonnement conduit à penser que la pandémie n'est pas intrinsèquement grave, mais qu'elle l'est devenue parce qu'elle s'est abattue sur un système sanitaire ravagé. S'il est indéniable que la destruction du système de soins a amplifié considérablement la violence pandémique, ce raisonnement repose sur des implicites inquiétants. Le rejet du principe de précaution face à une maladie inconnue dans ses effets à moyen et long terme, une banalisation des prises en charge en réanimation, qui pourtant conduisent à plus d'un tiers de décès, sont toujours traumatisantes et entraînent de nombreuses séquelles. Enfin, l'invisibilisation des Covid longs qui touchent au moins 10% des personnes infectées, même asymptomatiques, et ont des conséquences gravement incapacitantes. Le second sophisme, peut-être le plus important, est celui-ci. Les gouvernements occidentaux, fidèles à leur habitude d'agiter la terreur pour pacifier les populations indisciplinées, auraient gravement exagéré la menace du Covid-19 pour discipliner les soulèvements populaires. Partant de là, un grand nombre de camarades en ont tiré cette conclusion fallacieuse. La gravité de l'épidémie n'est pas réelle, c'est un prétexte à l'accroissement du contrôle. Et pourtant, À bien y regarder, on ne peut pas dire que les gouvernements se soient précipités sur l'occasion pour nous terrifier. C'est au contraire un déni sans nuance qui a dominé les premiers temps épidémiques. Ce n'est qu'acculé, face à l'accumulation exponentielle des corps malades, qu'ils se sont vus forcés de réagir dans la plus grande improvisation. Le principal piège dans lequel sont tombés les milieux militants est d'avoir cru aux écrans de fumée dressés par les gouvernants. Et c'est ainsi que nous avons vu fleurir de mauvaises lectures de Foucault, allant jusqu'à qualifier d'hyper-rationaliste un gouvernement qui affirme que les écoles ne sont pas des lieux de contamination, qui nie pendant plus d'un an le mode principal de transmission du Covid-19, c'est-à-dire l'aérosolisation, et prétend combattre l'épidémie par des moyens moqués de toutes et tous, le couvre-feu, le masque en extérieur et l'interdiction d'être debout dans les bars par exemple. Mais un autre signal de ce déni dans les milieux militants nous a semblé particulièrement alarmant. La reprise dans la bouche de certains camarades de la ritournelle eugéniste affirmant que le Covid-19 ne serait pas si grave car il n'affecterait que les personnes âgées et les personnes vulnérables, les constituant de fait comme des quantités négligeables. Si l'on rappelle qu'en France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population, et que 20% des Français et Françaises ont plus de 65 ans, on mesure combien le nombre de vies négligeables n'a, lui, rien de négligeable. Quand bien même cela ne concernerait qu'une poignée de personnes, l'argument n'en serait pas moins abject et la reprise d'une antienne d'extrême droite du côté des luttes, un signal qui devrait nous inquiéter au plus haut point. De manière assez étonnante, le phénomène majeur qui structure nos sociétés depuis 2 ans demeure largement absent des analyses qui tentent de comprendre la progression fulgurante du fascisme ces 2 dernières années. Si les dynamiques de fascisation des sociétés occidentales gouvernées par le libéralisme autoritaire étaient bien avancées avant la pandémie, il semble que celle-ci a pourtant agi comme un catalyseur. Ce sont les stratégies covido-négationnistes qui ont le plus contribué à nourrir ces forces funestes en réunissant gouvernants et fascistes dans une même célébration morbide. Et dès le début de la pandémie, les forces de l'extrême droite libertarienne se sont mises en branle pour nier la réalité de la pandémie. Le Zetkin Collective a relevé 3 formes de déni climatique qui s'appliquent tout aussi bien à la pandémie. Le déni pur et simple, prôné par les groupes les plus fascisants. Le déni interprétatif porté par la droite libertarienne, qui, tout en reconnaissant l'existence d'un problème, en minimise l'importance et la gravité. Grippette, rhume, seules les personnes vulnérables sont concernées, la prochaine vague n'existe pas, etc. Et enfin, le déni implicatoire du néolibéralisme, qui, tout en prétendant avoir une haute conscience du problème, ne fait absolument rien pour y répondre. L'extrême droite libertarienne va soutenir et financer la promotion de ces 3 formes de déni qui convergent toutes vers un même objectif, faire tourner l'économie et continuer à démanteler toute forme de protection collective. Et ce pari, elles vont le remporter, grâce au déni de la gauche radicale et des mouvements autonomes et libertaires, et avec une stratégie simple. Laisser se constituer comme seul mouvement d'opposition un mouvement qui réclame, à corps et à cri, la fin de toute forme de protection collective, qu'il appelle restriction. Un mouvement qui affirme tout un covido-négationnisme que le gouvernement applique déjà tout bas. Un mouvement qui, au fond, demande au gouvernement d'aller plus loin dans son propre programme eugéniste et ultralibéral. Le mouvement anti-masque, anti-confinement, anti-vaccin, bref, un mouvement pro-virus et anti-prévention. C'est sur cet héros de mobilisation anti-prévention menée par les leaders d'extrême droite que se constituera le mouvement contre le pass sanitaire. Ces précédents auraient dû interdire toute comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, aussi hétérogène qu'il fût, n'était pas directement précédé d'un mouvement idéologiquement et hiérarchiquement structuré. Et pourtant, c'est ce parallèle que mirent en avant un certain nombre de critiques radicales, allant même jusqu'à voir dans les conspiracistes des révolutionnaires en devenir, tout comme d'autres avant elles avaient réussi à faire de l'antisémitisme un anticapitalisme tronqué. C'est donc avec effroi que l'on a pu voir de nombreux groupes militants défiler sans sourciller aux côtés d'une extrême droite qui trouva là l'occasion d'exprimer son antisémitisme de manière débridée. Le covido-négationnisme a donc 2 faces qui mettent en scène leur opposition pour mieux nous mener dans une impasse ultralibérale, eugéniste et raciste. Face à cela, nous n'avons qu'une issue, prendre au sérieux la pandémie. Les grèves et les blocages sont particulièrement indiqués pour lutter contre les politiques pro-virus. Ils font chuter les taux de contamination tout en faisant pression sur le gouvernement. Sans attendre la fameuse grève générale, nous pouvons initier partout des grèves et des blocages pour refuser collectivement de travailler et d'étudier dans des lieux non protégés. On peut faire grève contre un virus et ses complices au pouvoir, il en va même d'une nécessité vitale. Il sera aussi nécessaire de multiplier les ateliers d'éducation populaire et diffuser massivement les connaissances scientifiques et les pratiques adéquates à la lutte contre le virus. Seule l'émergence de forces qui mettent le soin et la prévention au cœur de leurs pratiques et qui portent un discours clair et fondé scientifiquement nous permettra de trancher dans la confusion et donc de combattre la désinformation et la séduction des récits négationnistes. Cela passe par le fait de dire que le vaccin est nécessaire car il réduit les formes graves et le risque d'hospitalisation, mais qu'il est insuffisant car il n'annule pas la nécessité des autres mesures comme le masque ou la ventilation. Il nous faut donc nous battre pour que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins, qui sont aujourd'hui exclusivement réservés aux pays riches, et surtout aux riches des pays riches. Mais il nous faut également développer une juste compréhension du principal mode de contamination du virus. Celui-ci se transmet comme de la fumée que l'on inhale par le biais des aérosols que l'on émet lorsque l'on mange, l'on parle ou simplement lorsque l'on respire. Ces aérosols s'accumulent dans l'air en l'absence d'aération et leur taux de concentration ainsi que le temps d'exposition augmentent le risque de contamination. Notre effort devra donc porter sur l'importance de l'usage des masques en intérieur et sur celle d'une aération régulière. Face au capitalisme du désastre et à ses convergences fascistes et cybernéticiennes, il s'agit de faire exister, dans nos villages et nos quartiers, des formes ouvertes de communautés mues par l'attention portée à la vulnérabilité. Un communisme du soin. C'était une adaptation de Face à la pandémie, Le camp des luttes doit sortir du déni, un texte du collectif Cabriole paru le jeudi 27 janvier et que vous pourrez facilement retrouver en ligne. Le carnet de recherche pour l'autodéfense sanitaire face au Covid-19 de Cabriole est accessible sur cabriole, avec un S, .noblogs.org.
Et on est content que des copains et des copines aient le temps de se pencher sur cette question du Covid et de l'autodéfense sanitaire, et surtout de prendre le temps d'écrire des textes qu'on peut diffuser, qu'on peut commenter et lire, parce qu'on n'est pas gâtés du côté du gouvernement qui vient quand même nous emmerder, et du coup, face auquel on est obligé de réagir un peu au quotidien. Vous avez sans doute entendu parler cette semaine, c'est par la voix de Darmanin, que le gouvernement a annoncé vouloir la dissolution du média Nantes Révolté, dont il s'est bien gardé de dire que c'était un média par ailleurs. Pour motiver la dissolution, le Premier ministre a expliqué, sans un accroc, dans La Voix, que Nantes Révolté serait un, je cite, « groupement de faits d'ultra-gauche qui répète sans cesse des appels à la violence contre l'État, contre les policiers, avec des propos absolument inacceptables ». Et hop, l'argumentaire est déployé et la dissolution réclamée. Seulement voilà, Nantes Révolté n'est qu'un média indépendant qui relaye des appels à manifester, et publicise les luttes sociales à l'échelle locale. Rien d'illégal donc, mais pourtant, Nantes Révolté défrise notre détesté Premier ministre. Il faut dire qu'à entendre la responsable LREM de Nantes et la présidente de la région Pays de la Loire, il est urgent de, je cite toujours, ne plus laisser prospérer cette idéologie anarchiste et haineuse plus longtemps. Depuis près de 10 ans, des centaines de policiers et d'habitants ont été blessés au cours de ces manifestations violentes. Alors là, pour le coup, on est un peu d'accord avec elle. Des centaines d'habitants ont été blessés au cours de ces manifestations violentes par la répression policière ces dernières années. Et on aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Heureusement, du coup, Nantes Révolté, comme d'autres médias indépendants, publicise, rend visible et dénonce ces violences quotidiennes des forces de l'ordre. C'est pas exactement, je crois, ce que voulait dire la responsable LREM quand elle a appuyé sa demande de dissolution. Ce qu'on rend compte, c'est aussi que du coup, voilà, ça refait un énorme pataquès en disant « Ah tiens, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est pareil, allez hop, on dissout tout ce qui n'est pas l'idéologie républicaine ». Tout ça, ça prend quand même extrêmement d'énergie pour pouvoir défendre nos outils, pour pouvoir défendre nos moyens de communication. On rappelle quand même que Radio Canu, c'est aussi un média indépendant qu'on a envie de défendre et qui n'est pas très ami avec les forces de l'ordre. Par exemple, Nantes Révolté, ça reste quand même un contre-pouvoir qui est important à l'échelle locale, certes, mais c'est important que ça existe, il dérange donc profondément les autorités locales. Par exemple, ce média révélait dès le lendemain de la fête de la musique les vidéos à charge qui a tué Steve en 2019. C'est un média qui a mis en lumière depuis des années les violences d'État passées sous silence, les manœuvres politiques des élus, qui documentent les mobilisations, qui donnent un contrepoint à la propagande dominante. C'est aussi des médias sur lesquels il n'y a pas besoin d'être journaliste professionnel, et ça c'est plutôt pas mal, chacun, chacune peut y proposer des textes et donc faire entendre sa voix au-delà d'un blog, mais du coup avec un outil collaboratif qui permet du coup de porter une pensée, des pensées qui sont collectives. Et puis cette semaine, continue de nous gâter avec la mise hors ligne du compte Instagram Cerveau Non Disponible. Mise hors ligne qui devait durer 72 heures, mais depuis toujours pas de nouvelles d'Instagram. Cerveau Non Disponible explique « Cette disparition du web n'est rien d'autre qu'une manœuvre d'invisibilisation d'idées qui ne conviennent pas à la classe dominante ». Petit point pour vous rappeler qu'effectivement, très très régulièrement, des comptes Facebook, des comptes Instagram sont supprimés des comptes de personnes qui portent parfois, trop souvent, des voix d'extrême gauche, et que aussi ce sont du coup des outils qui sont loin d'être indépendants Et ça pose question, du coup, d'avoir ça comme seul outil de communication. Peut-être pour finir sur ces notions de dissolution, parce que quand même, à Lyon, ça nous arrive assez régulièrement d'entendre dissolution. Notamment, ça a été autour du groupe antifasciste Lyon et environ la GAL, que régulièrement, parce que c'est ça, voilà, dès qu'on essaye de visibiliser, de publiciser des idées politiques, on arrive jusqu'aux oreilles du Premier ministre ou de Darmanin. Et donc la GAL, on se souvient, c'était déjà il y a quelques mois, Laurent Wauquiez qui voit interdit les concerts au CCO parce que le groupe organisateur du Lyon Antifa Fest serait anti-flic. Et là, récemment, du coup cette semaine aussi, le groupe antifasciste et environ la GAL a relayé quoi ? Un appel des soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, vous en avez peut-être entendu parler, ça fait un an et demi qu'il y a des manifestations, week-ends d'occupation, moments d'échange partout en France pour dénoncer les grands projets inutiles et imposés, puis surtout la place des énormes lobbies soutenus en partie par de l'argent public, dont Bayer et Monsanto. Oh, il se trouve que le siège de Bayer et Monsanto se trouve à Lyon. Et donc, un rassemblement est appelé depuis plusieurs mois par énormément de collectifs et d'associations pour assiéger tout à fait Bayer et Monsanto et dénoncer ces pratiques destructives de l'environnement et de mode de vie plus souhaitable. Bref, voilà, la GAL relaye ça, hein, comme vous pouvez faire ça très facilement avec votre compte Facebook, mais vous n'êtes pas connu de Darmanin. Or, la GAL, si, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu aussi une demande de dissolution. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça pompe énormément d'énergie. C'est vraiment chiant, on a autre chose à faire que de répondre à Darmanin. Et voilà, quelle sera la conclusion de tout ça ? Est-ce que c'est un simple coup de communication ? Est-ce que c'est un appel à plus de répression des mouvements antifascistes ? Est-ce que ça va être une réelle dissolution ? En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans un climat de plus en plus autoritaire et fascisant et que ça fait pas rigoler.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien. Ni au fainé.
On va y arriver, c'est laborieux. Mais c'est quand même l'heure de l'agenda.
C'est le retour de l'autostart.
L'état de l'agenda.
Au niveau de l'agenda, samedi 5 février. Ah, c'est le 5 février. C'est la semaine prochaine, en fait.
Non, en vrai, c'est tous les samedis,
alors,
je crois.
Tous les samedis, bien heureusement, et pas que le 5 février. Une permanence InfoShop à la Lutine de 14h à 18h. Donc chaque samedi après-midi de 14 à 18 minimum, l'infoshop de la Lutine ouvre ses portes aux vagabonds, apatrides, zonards et autres voyageuses temporelles. Au programme des bons livres, fanzines et disques pas chers, du café gratos, des gens avec qui discuter et plus encore. Le mardi 1er février, Bistrot de la Caisse. De 18h30 à 23h30, ce qui est décrit pour l'officiel. Depuis 5 ans, le bistrot de la Caisse, c'est un moment pour se capter, se recapter autour d'une bière, d'un thé ou d'un croque-monsieur, discuter de la répression, des luttes en cours, se rencontrer. C'est aussi l'occasion de contribuer à la solidarité financière avec tous ceux et celles qui font face à la police et à la justice. C'est à l'amicale du futur.
Et c'est bien le bistrot de la Caisse de solidarité, même s'ils n'ont pas eu le courage de tout écrire, peut-être.
Non, c'est vrai.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Cagnosse du vendredi.
Et on fait quoi maintenant ?
Et c'est l'heure du ACAB avec vraiment un autostart qui a décidé d'être désagréable ce soir. Il y a eu beaucoup d'appels. D'où les problèmes techniques finalement. Faire le standard et la technique en même temps, ça
et
fait
le
beaucoup.
Démarrage en retard.
En tout cas, ACAP cette semaine, et ben ça pourrait bien vouloir dire arrêtons le capital, nos anciens sont à bout. Et on va se quitter là-dessus. Il est 19h56, on est presque à l'heure. Et on vous remercie d'avoir écouté. Et à vendredi prochain, c'est les bandes continues. Et juste après, c'est Noise Pollution qui vient d'arriver dans le studio.